Eh bien, mes amis, en ce samedi 9 août, nous allons nous pencher ensemble sur une épître de l'Écriture sainte qui va servir de toile de fond à ce thème qui a été annoncé dans les dépliants du camp Mahanaïm 1980, les droits du Fils de l'homme. Et cette épître, je pense que vous lui avez déjà donné son nom, elle se trouve, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Vous êtes bien silencieux. Non, cette épître se trouve dans le Nouveau Testament. Sûrement que vous en connaissez l'auteur. Car une épître, c'est une lettre. Et qui a écrit le plus de lettres? Il semblerait que ce serait Paul, mais justement... Ce n'est probablement pas Paul. Serait-ce Jean? Non, ce n'est pas Jean. Jacques? Ce n'est pas Jacques. Pierre? Ce n'est pas Pierre. Jude? Ce n'est pas Jude. Alors? C'est une épître anonyme. C'est l'épître aux Hébreux. Vous êtes profondément déçus. Et pourtant, je crois que vous allez découvrir que c'est un des plus précieux livres de l'Écriture sainte. Du reste, le plus précieux livre de l'Écriture, c'est celui qu'on lit aujourd'hui, en ce moment. Chaque fois que je lis un livre, je trouve que c'est le plus précieux. Le livre du jour. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais avant toute chose, nous allons demander le secours de l'Esprit de Dieu. Ô Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas ouvrir l'Écriture sans implorer ton Esprit afin que lui-même nous conduise à travers ce texte que tu as voulu donner pour tous les temps et pour tous les hommes. Fais tomber les écailles de nos yeux. Illumine notre intelligence, rends-nous simples pour que nous puissions comprendre les choses profondes de Dieu, car notre Seigneur l'a dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Accorde-nous de lire ta parole en ces journées, comme des enfants qui savent encore s'émerveiller et qui feront des découvertes et apprendront quelques leçons utiles, car nous croyons que toute ta parole est inspirée par ton esprit et utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre et nous rendre parfaitement propres, accomplis pour toute bonne œuvre, car nous voudrions, Seigneur Jésus, ne pas être seulement des gens qui se disent sauvés, mais qui manifestent le si grand salut que tu leur as donné en étant les premiers dans les bonnes œuvres, afin que le monde qui nous regarde, qui ne te voit pas, qui ne croit pas en toi, soit amené à croire que tu existes, non seulement parce que il peut contempler les œuvres de la nature, mais parce qu'il peut contempler ton œuvre de régénération, ce renouvellement dans nos propres vies et dans notre chair mortelle. Tout cela, nous te le demandons ensemble pour ta seule gloire, ô Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tant aimés et qui nous a donné son Esprit. Amen. Eh bien, mes amis, j'ai pensé qu'il serait peut-être bon que, avec mon introduction, je vous relise ce que nous avions écrit dans ce dépliant concernant le but de ce temps en cette année 1980. À l'heure où l'humanité entière connaît des jours de périlleuse insécurité, nous désirons offrir à notre jeunesse un temps d'écoute et de réflexion salutaire dans un cadre propice à la méditation, à la communication et au partage. Et nous espérons que ce ne sera pas seulement un texte annonçant ce camp, mais que vous allez vivre ce que nous avons écrit dans la dépendance du Seigneur. Dans le tumulte des nations, au jour de toutes les révoltes, de toutes les revendications, de toutes les violations, jeunes ou plus âgés sont appelés à faire un choix. Au sein de la confusion grandissante et des contradictions les plus criantes, quand le mensonge est appelé vérité, que la torture et la mort deviennent la vie d'une multitude, le moment est venu d'entendre la parole libératrice crier « C'est ici le chemin, marchez-y » Citation d'Ésaïe 30, verset 21. Nous sommes reconnaissants d'être dans un lieu et dans un pays où règne la paix, mais nous ne pouvons pas oublier que dans plusieurs nations, c'est la guerre, c'est la torture, c'est les camps de concentration, le goulag et toutes sortes d'horreurs et qui sont quotidiennes. Dans un monde où Dieu n'est même plus nié, mais simplement ignoré, le Saint-Esprit peut nous donner le goût des Écritures pour nous dévoiler le divin décret. Ce que les hommes ont oublié, c'est que Dieu a un Fils et que ce Fils doit régner. Il ne suffit pas de rappeler la naissance de ce Fils année après année, à quelle date? À Noël, hein? Enfin, selon certaines traditions, quoique nous ne pensions pas que le Seigneur soit né ce jour de Noël, mais on a choisi ce jour-là pour rappeler la naissance de Jésus. Et ça, c'est quand même un fait historique. Il y a un homme qui a été appelé Jésus et qui a donné son nom à notre ère, puisque nous l'appelons l'ère chrétienne, et que nous sommes en 1980, qui date donc de la venue de ce Jésus dans ce monde. Nous croyons qu'en ces journées, la grâce nous sera faite de découvrir le vrai visage de celui qui, selon les évangiles, se nomma lui-même plus de 80 fois le Fils de l'homme, s'identifiant ainsi à la vision messianique du prophète Daniel, texte que nous vous avons lu ce matin avant le petit déjeuner. Ayant racheté le monde au prix de son sang, seul le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de juger les peuples et de régner sur l'univers. Et je cite une parole de Jésus, Jean 5, verset 27. Au seuil de l'an 2000, la vie, la mort, la résurrection et la venue de l'homme par excellence ne parleraient-elles plus à nos cœurs et à nos consciences? Aurions-nous oublié les droits du Fils de l'homme sur chacune de nos vies? Si donc, il faut qu'il règne, ne serait-il pas urgent de devenir complètement, et j'insiste sur ce mot complètement, ses disciples et d'apprendre de Jésus quel témoignage et quel engagement le Fils unique du Père attend de nous jusqu'à son retour. Car nous sommes de ceux qui croient que Jésus reviendra et que ce retour est plus proche que vous ne le pensez. Telles seront nos préoccupations essentielles au sein même d'un programme conçu pour donner à tous une saine détente dans le respect du cheminement intérieur et de la réorientation de chacun. Eh bien, nous espérons que ce texte que nous avons écrit sous le regard de Dieu ne restera pas lettre morte et qu'à la fin de ce temps, vous pourrez dire, eh bien oui, c'était bien ce que l'on nous avait annoncé. Un tout petit mot au sujet du choix de ce thème. J'ai souligné hier soir à l'ouverture du camp que j'espérais bien que tous avaient lu les droits du Fils de l'homme et non pas comme certains m'ont dit, ah, alors vous allez parler des droits de l'homme. Et pourtant, ils avaient reçu le dépliant. Les droits de l'homme, est-ce que vous aimeriez que nous vous en parlions? Eh bien, j'ai justement choisi les droits du Fils de l'homme parce que j'étais tanné, comme vous dites au Canada, d'entendre toute l'année parler des droits de l'homme par les plus grands hommes de ce monde, en particulier Jean-Paul II, qui dans tous ses discours a insisté sur les droits de l'homme dans tous les pays où il est allé. Et il n'y a pas que Jean-Paul II, mais enfin Giscard d'Estaing et bien d'autres encore. Certainement René Lévesque aussi, pour ne pas sortir de notre province, ou alors de notre Canada. Notre cher Pierre-Éliott Trudeau parle aussi des droits de l'homme. On l'a même pressenti pour un poste international pour bientôt, semble-t-il. Alors, bien, on entend constamment parler de ces droits de l'homme qui ont été soulignés à la conférence d'Helsinki, que les Russes semblent aussi avoir ratifié, alors qu'on en sait pertinemment que ces droits, dans les pays de l'Est et dans d'autres pays aussi, sont constamment violés. Est-ce que vous auriez aimé que l'on continue sur cette lancée? Non. Nous voulons simplement rappeler que c'est en France, le 9 juillet 1700, combien? 89, que les États généraux prirent le nom d'Assemblée nationale constituante. Assemblée qui abolit les privilèges féodaux, dans quelle nuit? La nuit du 4 août, donc le même mois que celui que nous vivons, proclama la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et l'égalité des citoyens devant la loi, vota la constitution civile du clergé, institua les actes de l'état civil et divisa la France, comme vous le savez, en départements. Donc, les droits de l'homme viennent de quelle révolution? La Révolution française, mais c'est là que ça a commencé. Les droits de l'homme, on n'en avait jamais parlé avant. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est l'ensemble de règles qui régissent les rapports des hommes qui constituent une même société. c'est la faculté de faire un acte, de jouir d'une chose, d'en disposer ou d'exiger quelque chose d'une autre personne. C'est la définition que la Constituante a donnée justement des droits de l'homme, qui sont reconnus, comme vous le savez aussi, par l'Organisation des Nations dites Unies. Mais ces droits, quelqu'un d'autre en avait parlé bien avant, sur une montagne, laquelle? La montagne du Sinaï, en Israël. Quand le peuple hébreu sortit d'Égypte sous la conduite de Moïse, 10 paroles furent données par Dieu lui-même au peuple rassemblé au pied de la montagne. Mais, dans ces 10 paroles, il y en avait 5 qui parlaient de quoi? Des droits de Dieu. Et 5 des droits de l'homme. Des relations qui devaient exister avec ou entre les hommes. Et c'est peut-être ce que l'on a oublié, c'est pourquoi le message que j'ai été poussé à écrire à la fin de l'année dernière soulignait justement les droits de Dieu, parce que ces droits-là, on n'en parle, pour ainsi dire, jamais. On est toujours avec les droits de l'homme. Mais si les droits de Dieu étaient respectés, qu'est-ce qui en découlerait? Le respect des droits de l'homme. Quand on aime Dieu et qu'on adore Dieu seul, on aime aussi la créature qu'il a faite à son image. Alors, on ne tue pas, on ne vole pas, on ne vole pas la femme de son prochain, c'est-à-dire on ne commet pas adultère, on ne rend pas de faux témoignages et on ne convoite pas, quand on est vraiment en relation avec le vrai Dieu et qu'on le prend au sérieux, non pas en disant « oui, oui, Dieu existe, mais nous sommes tous des croyants, nous savons bien qu'il faut bien une cause première, Dieu existe », et puis pratiquement on vit comme s'il n'existait pas. Oui, avant la Révolution française, les droits de l'homme était bien établi après que furent soulignés les droits de Dieu. Alors, si vous voulez vous pénétrer de ce que sont les droits de l'homme, lisez le Pentateuque, lisez les Écritures, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, et vous serez émerveillés, vous verrez que ce n'est pas l'histoire d'un autre peuple et d'un autre âge qui ne nous dit plus rien, mais que nous sommes en pleine actualité et que toute l'Écriture, comme nous l'avons souligné dans la prière, est vraiment inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner aujourd'hui, en 1980, nous qui approchons de l'an 2000, l'Écriture est vivante, elle est permanente. Elle parle à nos consciences et à nos cœurs si nous savons écouter, si nous savons fermer les yeux au lieu de les avoir rivés sur ce que j'appelle avec un journal satirique français, le canard enchaîné, ces étranges lucarnes que vous avez reconnues. On est devant la télévision bien souvent des heures et des heures à regarder ce qui se passe quelque part dans le monde, et alors on n'a plus de vision, le Seigneur ne peut plus même nous donner ces visions nocturnes qu'il donnait à Daniel, et c'était pas mal, hein, c'était étrange, des étranges animaux, plus terribles les uns que les autres. Mais pour cela, il faut avoir un autre poste récepteur et être branché sur un autre poste émetteur qui se trouve dans le ciel. Et alors, voilà pourquoi nous avons cru devoir prendre l'Épître aux Hébreux, car nous y avons vu vraiment le fond de tous nos messages dans ces journées. Nous allons donc les étudier jour après jour, dès lundi, en atelier. Petit groupe de 7 ou 8 personnes, enfin combien sommes-nous? Est-ce qu'on sait le nombre exact de, à peu près de... Combien? Oui, mais moi aussi il faut que je sache, pour savoir à peu près combien d'ateliers, parce que 10 par atelier c'est 3. Donc, il faudra compter 7 ou 8 au maximum, hein, et nous ferons un nombre d'ateliers pour que tous puissent vraiment participer. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous allons donc étudier en atelier, par petits groupes, ces chapitres de l'Épître aux Hébreux. Forcément, dans la première semaine, nous n'arriverons pas à la fin de l'Épître, heureusement, car nous avons encore une semaine pour pouvoir terminer cet Épître. Donc, nous aurons 5 ateliers la première semaine, 5 ateliers la seconde. Et samedi, comme je l'ai souligné hier soir, samedi prochain, si nous y arrivons, Dieu nous permettra de récapituler ce que nous avons vu dans nos ateliers et de faire une introduction pour le nouveau camp, introduction à laquelle vous assisterez et qui mettront en avant les grandes lignes des chapitres qui nous resteront à étudier. Nous croyons qu'ainsi le Seigneur donnera aux uns et aux autres une bénédiction et une vue d'ensemble de cet épître. À la fin de chaque atelier, après le rapport de tous les groupes, nous apporterons une courte conclusion sur le chapitre ou les chapitres que nous aurons étudiés. Alors, je demande maintenant, pourquoi l'Épître aux Hébreux? Qui l'a lu, cet Épître aux Hébreux parmi vous? Il y en a beaucoup qui ont lu l'Épître aux Hébreux d'un bout à l'autre. Pas des petits morceaux, là, en ouvrant la Bible, piquant un verset sur Ésaü qui a pleuré. Eh bien, je crois que vous aurez une grande bénédiction à lire une fois toute une épître, verset par verset, parce que c'est ça la vraie lecture, la vraie étude de la parole de Dieu. Et c'est comme cela qu'on progresse. J'ai reçu une lettre qui m'a vraiment touché, je pense que je vous la lirai, même si je ne devais pas dire le nom, mais elle vient de Québec. Une lettre qui m'a vraiment touché, une personne qui était au camp l'année passée et qui dit que elle s'était plainte de ne pas être nourrie dans son milieu, et il paraît, je me souvenais plus dû avoir dit cela, je lui ai dit une parole qui lui a fait beaucoup de bien, et qui lui montrait simplement qu'elle pouvait se nourrir elle-même par la parole de Dieu. Et elle en a fait une expérience extrêmement enrichissante, et ce n'est pas seulement la santé spirituel qui va mieux, mais aussi la santé physique. Et ça, j'y crois de tout mon cœur, parce que si je ne suis pas enterré depuis plus de 50 ans, eh bien, c'est parce que cette parole ne m'a pas tué, mais elle m'a fait vivre. C'est un texte des psaumes où il est dit « Ta parole m'a fait vivre ». Et ça nous va jusque dans les os pour nous fortifier. La parole de Dieu est vivante, elle est opérante, elle nous relève, elle nous redonne force, espoir, courage. Et si vous devenez de ceux qui ont goûté non seulement cette bonne parole de Dieu, mais qui s'en nourrissent, comme le dit Jérémie, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, pas seulement goûtées, hein, mais mangées, elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Et vous savez, un cœur heureux, dit le proverbe, c'est un festin continuel. Vous vous rendez compte de cela? Un festin continuel. Et malgré les prix toujours plus élevés, malgré l'inflation et tout ce que vous voulez, eh bien, le festin est toujours au même prix. C'est quelque chose de merveilleux. Goûter à cette parole, manger cette parole, c'était le secret de Jésus. Il disait, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que alors, vous ne pourrez pas lire simplement la parole pour avoir des connaissances, mais une fois qu'on a lu la parole, qu'est-ce qui nous arrive? On sent que nous devons la mettre en pratique. Et c'est cette mise en pratique qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu, et c'est en accomplissant la volonté de Dieu que l'on vit. C'est en accomplissant la volonté de Dieu que l'on est vraiment heureux. Heureux. Et réellement libre. Il y a tant de gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que tout le monde. Ce sont de pauvres esclaves qui se conforment à tout ce qui se fait dans ce siècle. Ils ne sont pas des êtres libres. Ils ne peuvent pas faire autrement. Tout le monde ment pour nous en tirer. Nous devons aussi mentir. Puis nous avons la confession, nous les chrétiens. Nous confessons que nous sommes des petits menteurs, des gros menteurs. Et puis on a mauvaise conscience. On fait un tas de choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Et la maladie du siècle chez les chrétiens dans les églises, c'est justement cette mauvaise conscience. Mais nous ne serons pas de ceux qui lisent simplement pour avoir une connaissance des Écritures, mais pour mieux vivre dans ce monde, pour mieux refléter la vie de notre Sauveur. Pourquoi l'Épître aux Hébreux? Bien, parce que la gloire de notre Sauveur est exposée dans cet Épître, qui, je le souligne, est un des livres les plus précieux de la Bible. On l'a même appelé, vous savez comment? Le cinquième évangile. Je sais bien que vous me direz, mais on a déjà appelé le livre, le prophète Ésaïe, le cinquième évangile. Oui, alors ça serait le sixième, si vous voulez. Hein. Mais dans le Nouveau Testament, on peut bien dire le cinquième évangile. Parce que si vous avez lu les évangiles, bien, vous savez qu'il y a eu Jésus. Vous savez ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il est né, comment il a prêché, comment il est mort, comment il est ressuscité, puis comment il est monté au ciel. Puis après, qu'est-ce que vous savez? Oui, parce qu'il l'a promis, hein. Alors, si vous lisez les épîtres de Paul. Mais si vous voulez savoir ce qu'il fait maintenant, il faut lire quoi? L'épître aux Hébreux. C'est pour ça qu'on a donné à l'épître aux Hébreux ce nom, l'épître des cieux ouverts. Là, on voit ce que fait Jésus. Et j'espère que, par la puissance du Saint-Esprit, nous aurons l'occasion, les uns et les autres, de contempler Jésus maintenant. Jésus dans sa gloire. Jésus dans son sacerdoce auprès du Père pour nous. Celui qui prie pour nous, celui qui intercède pour nous, celui qui fait taire l'accusateur des frères, qui cherche toujours à nous démolir de telle manière que nous recevons même ces dards enflammés qui jettent le doute dans nos cœurs. Mais il y a quelqu'un qui lutte pour nous auprès du Père, qui est notre avocat et notre souverain sacrificateur. Et pour cela, il fallait vraiment, pour qu'il nous représente devant Dieu, qu'il soit homme. Et vous allez de plus en plus comprendre pourquoi Jésus lui-même aimait s'appeler le fils de l'homme. Non pas parce qu'il disait qu'il était le fils de Joseph, mais qu'il était l'homme par excellence, celui qui a revêtu notre nature, afin de pouvoir nous représenter authentiquement devant Dieu. Il s'est fait homme, mais en même temps, il était Dieu. Alors, il est homme pour nous comprendre et il est Dieu pour nous défendre. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a quelqu'un qui se tient pour nous devant la face de Dieu et qui nous aime totalement. Il ne peut pas nous aimer plus. Et cet amour, il nous l'a prouvé en donnant quoi ? Sa vie. Il avait quitté le ciel pour venir vivre au milieu de nous. Il a revêtu un corps de chair au risque de ne pas être reconnu. Il a couru tous les risques et même il est mort. Mais de cette façon, il peut nous représenter devant Dieu et dans toutes les circonstances de notre vie. Parce qu'il a pris notre humanité à la crèche et il est mort sur un lit de douleur qui était la croix, alors que bien souvent les hommes meurent entourés de mille soins. Lui était pendu sur le gibet de la croix. Alors, on comprend que les torturés de ces églises qu'on appelle à tort, à mon sens, les églises du silence, car je pense justement qu'elles ne sont pas silencieuses devant Dieu, ces églises. Il y a des prières, eh bien, ces torturés, ils ont la croix devant les yeux. Et n'oublierai jamais cette parole de ce missionnaire chinois qui a été libéré il y a peu de mois, après 22 ans ou 23 ans de prison, et qui est sourd en grande partie à cause des mauvais traitements qu'il a eus et presque aveugle. Et un ami américain à Pékin lui demandait, mais alors après tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pensez de Dieu? De Dieu? Est-ce qu'il se serait trompé avec vous? Oh non, dit-il, avec un visage épanoui. J'ai passé 23 ans de lune de miel avec mon Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est de l'évangélisation. Ça vaut la peine d'être 23 ans en prison pour sortir une parole pareille. Et ça nous sort de notre torpeur, de notre misère. Là, on est assis sur soi-même. On se contemple le nombril. Et puis voilà, on est toujours découragé. Puis voilà des gens qui ont été en prison et qui sont pleins de joie en sortant. Puis qui ne disent pas simplement merci Seigneur de m'avoir délivré de la prison, mais qui rendent témoignage que quand ils étaient en prison, c'était leur lune de miel. Une lune de miel sans femme. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient Jésus. Comme c'est beau, hein? Avoir Jésus. Oui, vous avez lu les évangiles, je pense, d'un bout à l'autre. Vous en avez lu qu'un, ou vous les avez lus les quatre. Parce que chaque évangile nous donne un portrait du Seigneur Jésus. J'espère que vous lisez les quatre pour mieux découvrir les traits du Seigneur Jésus. Alors, en lisant les évangiles, nous voyons le ministère du Christ sur la terre, mais en lisant l'Épître aux Hébreux, ce que nous voyons, c'est son ministère dans le ciel. Et c'est pourquoi on l'a appelé l'Épître des cieux ouverts. Maintenant, je vous donne juste quelques renseignements, puisque après vous allez vous-même étudier, lire le texte. La date de cette lettre, parce qu'on se demande toujours à quelle date est-ce que cette lettre a pu être écrite. Eh bien, on pense que c'était avant la destruction de Jérusalem. Ça nous donne à peu près une époque. Jérusalem a été détruite en quelle année ? En 70. Alors, Paul, si c'était de Paul, il faudrait dire une date 65, peut-être 66 avant sa mort. Mais on pense qu'elle est écrite aux environs de l'an 67, avant donc la destruction du temple, 67 après Jésus-Christ. Et alors, l'auteur, eh bien, depuis l'époque apostolique, après la mort des apôtres dans le premier siècle, le deuxième siècle de l'ère chrétienne, on a beaucoup discuté pour savoir qui serait l'auteur et plusieurs, et encore aujourd'hui, pensent que c'est quand même l'apôtre Paul, parce que ils tiennent tellement à l'apôtre Paul, et moi aussi j'y tiens beaucoup. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire que ce soit Paul ou un autre? Alors on dit oui, mais si c'est Paul, c'est vraiment une épître d'un apôtre. Mais c'est quand même frappant que toutes les épîtres de Paul commencent à peu près de la même manière. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et voilà, l'épître aux Hébreux commence après avoir autrefois plusieurs reprises, donc il n'y a pas de signature. Paul signait toujours ses lettres au début. Alors on dit, mais pourquoi est-ce que dans l'épître aux Hébreux, il ne l'a pas fait? Eh bien, peut-être justement parce que il ne voulait pas se mettre en avant, parce que l'épître aux Hébreux met en avant qui? Jésus, n'est-ce pas? Alors, c'est pas de l'écrivain qu'il est question, c'est du Seigneur Jésus. Alors, il se peut que ce soit Paul, mais en tout cas, si c'était Paul, il n'a pas voulu mettre son nom. Mais ceux qui tiennent absolument à dire que c'était Paul, malgré que l'on peut trouver quand même des différences au point de vue littéraire, ce n'est pas toujours le même style. Alors, on va chercher dans le chapitre 13, et là, il semble que l'on retrouve vraiment le style, la manière de l'apôtre Paul au verset 23. « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. » Donc, vous voyez que Timothée, lui aussi, a connu la prison, l'enfant dans la foi de l'apôtre Paul. « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Et alors, on en conclurait, d'après ce verset, que c'est quand même de Paul qu'il est question, mais il y a beaucoup d'objections à cela, et je ne m'attarderai pas là-dessus, puisque l'épître est anonyme, nous la recevons comme une épître anonyme. Je vous cite simplement ce que les théologiens ont dit, d'abord les pères de l'Église, on a pensé que c'était Barnabas, un compagnon de Paul. Vous savez qui est Barnabas, hein? Le fils de consolation, celui qui avait vendu une propriété, qui en avait apporté le prix aux pieds des apôtres à Jérusalem. Un homme extraordinaire, un homme qui est allé chercher ce Saul de Tarse converti et qui était seul dans le désert d'Arabie, et il le ramène à Jérusalem. Et ils collaborent ensemble, ils sont ouvriers ensemble avec le Seigneur. Alors, comme c'est quand même les pensées de Paul qui se trouvent dans cette épître, on pense que si c'est pas Paul, ça serait Barnabas. Mais d'autres disent non, d'après le style, d'abord si c'est une épître merveilleuse, il y a une éloquence extraordinaire, alors on a pensé à qui? À Apollos. Apollos, un homme remarquable dont vous trouvez aussi l'histoire dans le livre des Actes. Apollos, un homme érudit, puissant dans les Écritures, très éloquent, mais qui a dû être enseigné sur un certain point par un couple qui était très précieux pour l'apôtre Paul, Aquilas et Priscilla, dont les noms reviennent 6 fois dans le Nouveau Testament. Alors on disait que ce serait Aquilas, mais vous voyez toujours des personnes dans l'entourage de Paul. Aquilas qui serait l'auteur de cette épître, ou peut-être Silas. Silas qui était avec Paul en prison quand il y eut le tremblement de terre. Dans quelle ville? La ville de Philippe de Macédoine, la première ville d'Europe qui a reçu l'évangile. Bien, vous voyez les conjectures des hommes qui cherchent absolument à vouloir donner un auteur à cette épître. Pour nous, qui est l'auteur de cette épître? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'homme qui l'a voulu et qui nous a donné ce merveilleux message. Pour que la personne qu'on ait vraiment devant les yeux soit le Seigneur Jésus et qu'on ne se dise pas « C'est un tel qui dit cela de Jésus. Ça a plus de force que si c'était quelqu'un d'autre. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous présente le ministère, le sacerdoce du Seigneur dans la gloire. C'est une lettre, quand vous l'aurez lue vraiment, où vous découvrirez une des révélations les plus profondes qu'on puisse trouver dans la Bible quant au plan de la rédemption et quant à la gloire du Fils de Dieu, notre Rédempteur. Un mot sur les destinataires. Qui étaient ces Hébreux, hein, puisque nous ne savons pas qui l'a écrit, nous pouvons supposer, mais nous ne sommes pas certains, ce n'est pas ça qui est important, parce que, en tout cas pour nous, c'est une épître apostolique, puisqu'au chapitre 3, nous lisons « C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. » Voilà pour nous la signature. Considérer l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé qui nous a donné cette parole, l'évangile. La foi que nous confessons, c'est, au fond, Jésus. Les hommes n'ont été que des instruments. Les apôtres ont été les instruments de Dieu, les instruments du Seigneur. Mais qui avait choisi les apôtres? C'est Jésus. Et les apôtres n'ont pas donné leur propre message, ils ont donné les paroles de Jésus. Les paroles que tu m'as données, dit Jésus à son Père, je les leur ai données. Et si nous croyons, bien nous croyons par les paroles qu'ils nous ont communiquées. C'est toute la prière sacerdotale que vous trouvez dans quel chapitre de l'Évangile de Jean? Le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Parce que vous voyez, si je fais cela, ce n'est pas pour examiner vos connaissances, c'est pour vous montrer que la Bible s'explique par la Bible. On ne sort pas de l'Écriture, tel texte vient jeter de la lumière sur un autre texte. Les destinataires, ces Hébreux, c'était des chrétiens, donc, sortis du judaïsme, mais qui étaient donc des descendants de qui? D'Abraham, qui est appelé l'Hébreu. En Genèse 14, verset 13, Abraham était un Hébreu. Et alors, les Juifs aimaient bien s'appeler Hébreux en pensant à qui? À leur père. Abraham l'Hébreu, que Dieu avait choisi, qu'il avait sorti d'Ur de Chaldée pour se révéler à lui et auquel il avait donné ses promesses. Donc, c'était des descendants d'Abraham, des Juifs, ces Hébreux, mais qui s'étaient convertis au christianisme, qui avait accepté l'évangile. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est à une église particulière, comme il y a l'épître aux Éphésiens, ou l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, est-ce que on peut penser que cette épître aurait été envoyée simplement aux croyants de Jérusalem? Non, nous ne le pensons pas. Nous pensons que cette épître est universelle et qu'elle est envoyée à tous ceux qui, justement, se sont convertis du judaïsme, qu'ils soient dans telle ou telle localité, et qui passent par certains troubles. Ce sont donc des convertis au Seigneur, mais qui étaient restés attachés, comme vous le voyez dans les premiers chapitres du livre des Actes, au culte judaïque qui allait encore au temple. C'est pourquoi on pense que l'Épître aux Hébreux a été écrite avant la destruction du temple, qui assistait encore à ces cérémonies et qui, ne voyant pas la réalisation des promesses des apôtres, et en particulier le retour du Seigneur qu'ils avaient annoncé à ce moment-là, comme étant imminent, ne voyant pas ce Messie auquel ils ont cru, ne le voyant pas revenir pendant leur vie, eh bien, ils se sont un peu découragés et ils avaient tendance à retourner dans le judaïsme. On sait combien les apôtres eux-mêmes ont eu de la peine à se détacher de ce Messie terrestre, au fond, qu'ils avaient attendu, de ces bénédictions terrestres qui étaient promises dans l'Ancien Testament, et combien ils ont eu de peine à découvrir que le Messie était d'abord un être céleste, et que les choses terrestres n'étaient que pour un temps, tandis que les choses célestes, qu'elles étaient éternelles. Mais on peut comprendre que ces Hébreux qui avaient cru à l'Évangile et surtout à ce royaume qui aurait dû s'établir prochainement, se décourageaient, les apôtres mouraient, le Seigneur n'était pas revenu, il y avait déjà des divisions dans l'Église, et comme étant convertis au christianisme, ils étaient quoi? Ils avaient la vie facile? Non, ils étaient persécutés, alors ils disaient, à quoi bon autant retourner à notre judaïsme, à notre première religion? Et ils avaient tendance à regarder en arrière à l'ancien ordre de choses. Mais je dirais que ce qui est essentiel, ce que vous devez comprendre, c'est que pour qu'ils soient dans un tel état, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le premier amour avait fait place à la tiédeur. Ils n'étaient plus dans le premier amour. On ne progressait plus, on semblait même reculer. Déjà quelques-uns avaient rétrogradé, comme vous le verrez, et c'est comme ça qu'on peut comprendre vraiment certains textes de l'Épître aux Hébreux. Sans ça, vous n'y comprenez rien, puis vous êtes toujours dans le doute, vous sortez des textes de leur contexte. Mais il faut voir dans quelle atmosphère ces gens se trouvaient. L'Église avait besoin d'être réveillée par de solennels avertissements, et vous allez les découvrir. Il y a dans cet Épître aux Hébreux de solennels avertissements. Alors, nous allons considérer les difficultés de ces convertis. Le retour de Christ tardait, mais la source du mal, eh bien, elle était dans l'ignorance et l'incrédulité à l'égard de ce qu'est le Christ et de ce qu'est le salut. Et cela, chers amis, ça va correspondre à nos besoins personnels. Je suis effrayé, même dans les milieux évangéliques, qui se targue de connaître et de lire la Bible, de voir l'ignorance des Écritures et l'incrédulité qui se manifeste dans les cœurs au sujet des promesses de la parole de Dieu. Le mal, c'était l'ignorance de ce qu'est le Christ et l'incrédulité à l'égard de ce grand salut, parce qu'on a fait aujourd'hui, et spécialement à cause d'une certaine manière d'évangéliser, on a fait du si grand salut que nous expose l'Épître aux Hébreux un petit salut, un salut bon marché. Et ce salut bon marché, eh bien, il ne vous donne pas grand-chose. Oh, l'assurance de votre salut. J'ai l'assurance de mon salut. Oui, on chante ça. Hein. Mais j'insiste là-dessus. Je sais que je suis détestable en parlant de cela, mais j'aurai à répondre à mon Seigneur de cette manière haïssable, comme vous dites ici au Québec. Ce qu'il peut être haïssable, ce type-là. Hein. Bien oui, peut-être, mais c'est parce que je vous aime et que je ne peux pas penser que l'on fasse du si grand salut de Dieu ce petit salut qu'on a mis dans sa poche et on continue à se traîner comme des limaces sur la terre tout en chantant des cantiques derrière les nuages. Il y a deux hommes, celui qui chante là-haut dans la gloire et puis la limace. On dit ça, c'est le vieil homme, c'est ce que je suis, c'est ce que je reste. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Il y a autre chose. Et vous ne devez pas, si vous connaissez Jésus-Christ, accepter cette médiocrité. Nous sommes des médiocres. Mais lui n'est pas médiocre. Alors c'est lui ou moi. Mais si c'est lui, il y a autre chose que moi dans ma vie. Et tout l'évangile, c'est renonce à toi, le médiocre, pour accepter qui ? Lui, Jésus. Mais d'une façon quotidienne, pas dire « moi je suis un sauvé depuis 4 ans ». Tu es un sauvé aujourd'hui. C'est ça qui compte. Est-ce que tu es sauvé quotidiennement? Est-ce que tu vis dans une relation personnelle avec le Seigneur? Ou bien est-ce que tu traînes toujours ce fardeau derrière toi? Le salut, dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'accomplissement merveilleux et divin de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et de tous ces types, de toutes ces images qui nous sont données dans l'Ancien Testament. Et l'Esprit Saint fait voir que l'ordre de choses terrestres, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, n'était que transitoire, et dans l'Épître aux Hébreux, l'Esprit Saint établit la supériorité du christianisme, le nouvel ordre de choses que l'Évangile a introduit, ce nouvel ordre de choses où tout est céleste et permanent. Le premier ordre de choses renfermait des ombres et des figures, tandis que le second, c'est la réalité. La réalité dont nous parlaient ces figures, eh bien, se trouve dans le nouvel ordre de choses en Jésus-Christ. Le sujet de cet épître et son but, c'est donc de connaître le Fils de Dieu qui est la puissance de vie pour le croyant. Est-ce que vraiment nous comprenons ce que Paul veut dire quand il dit « je désire le connaître, lui ». Nous désirons connaître la puissance de vie qui est en Jésus-Christ et qui doit se manifester dans le croyant. Cela va affermir les Juifs convertis dans cet épître, les Juifs devenus chrétiens, cela va les rassurer profondément, cela va les éclairer au sujet du pourquoi de la loi. Dieu avait donné la loi non pas pour qu'ils y restent constamment, mais Jésus étant venu ayant accompli la loi, est-ce que nous sommes encore sous la loi ? Non, nous sommes sous le gouvernement de Christ. La loi était bonne, elle a été notre conducteur jusqu'à Christ. Mais maintenant, nous sommes dirigés par Christ et non plus simplement par une lettre, par des principes légaux. Et alors, cet épître va nous avertir de ces dangers de retourner aux formes anciennes. On pourrait dire aussi, avec Vatican II, on a essayé, n'est-ce pas, de revenir à ce qui était pur dans l'Église primitive, puis maintenant, tout à coup, on veut retourner à tout ce qu'on avait plus ou moins rejeté, parce qu'on est sécurisé par les rites, par les formes. Et c'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, c'est l'Épître actuelle pour nous autres aujourd'hui. Et alors, cet épître va exalter la prééminence de Jésus-Christ. Vous verrez que le mot-clé de cet épître, c'est meilleur ou supérieur. Et alors, la note dominante, c'est la sacrificature céleste de Jésus-Christ à l'heure actuelle. Je dis simplement les titres de chacun des chapitres. Chapitre premier, vous verrez le Christ supérieur aux anges dans sa divinité. Dans le chapitre 2, le Christ supérieur aux anges dans son humanité, hein, parce qu'il est Dieu et il est homme. Alors, supérieur aux anges dans sa divinité, supérieur aux anges dans son humanité, chapitre 2. Chapitre 3, supérieur à Moïse, qui a pourtant été un grand prophète, un homme de Dieu, mais qui avait lui-même annoncé qu'il serait suscité après lui un plus grand que lui. Chapitre 18 du Deutéronome, et c'était du Seigneur qu'il parlait. Chapitre 4, nous verrons Jésus-Christ supérieur à Josué. Dans les chapitres 5, 6 et 7, Jésus-Christ supérieur à Aaron, le frère de Moïse, qui était le souverain sacrificateur dans le désert. Le chapitre 7 nous montrera en particulier le nouveau sacerdoce, qui est celui de Jésus-Christ, mais selon l'ordre de ce fameux Melchisédek, un nom peut-être qui vous a déjà intrigué, qui était ce Melchisédek. Nous aurons l'occasion de voir qui était Melchisédek et quel est ce sacerdoce de Jésus-Christ qui est établi selon, non pas l'ordre d'Aaron, mais l'ordre de Melchisédek. Aaron était de la tribu, de quelle tribu? Et Jésus? De Judas. Donc c'est une autre sacrificature. Si Jésus est sacrificateur, il n'est pas descendant d'Aaron, mais il est descendant de Judas. Alors nous allons voir cet ordre tout à fait nouveau, puisqu'il y a un sacrificateur maintenant qui est un prêtre éternel pour nous, qui n'a plus besoin d'être changé. Chapitre 8, nous allons voir le nouveau sanctuaire. Peu importe que le temple soit détruit, nous avons un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, et cela pouvait les encourager avant la destruction du temple. Nous avons donc un meilleur tabernacle. L'alliance nouvelle qui est faite est une meilleure alliance. Chapitre 9, nous allons voir l'efficacité du sang du Christ pour nous ouvrir le sanctuaire, pour nous donner d'abord le pardon de Dieu, la rémission de nos péchés, et nous ouvrir le nouveau sanctuaire et inaugurer la nouvelle alliance. Chapitre 10, nous allons voir la valeur infinie du sacrifice unique du Christ et qui ne se répète pas, qu'on ne renouvelle pas, qui est actualisé à l'Eucharistie ou à la Sainte Cène. On se replace devant l'unique sacrifice, mais personne ne le renouvelle. On ne renouvelle pas le sacrifice de Jésus-Christ. Et alors ça sera la première partie qui va donc du chapitre 1 au chapitre 10, versets 1 à 18. Je ne dis pas que nous allons dans cette semaine faire toute cette première partie. Et la seconde partie, alors, de cet épître, c'est du chapitre 10, verset 19, à la fin du chapitre 13, où nous voyons alors, dans cette fin du chapitre 10, la vie dans le lieu très saint. Au chapitre 11, la plénitude de la foi dans une magnifique galerie de tableaux où repassent tous les hommes de foi de l'Ancien Testament. Au chapitre 12, la persévérance de l'espérance, où nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus pour courir la course et qui est devant nous. Et le chapitre 13, l'amour et les bonnes œuvres. C'est merveilleux comme sujet. Nous pouvons parler de l'amour, du vrai amour et des bonnes œuvres. Car en accomplissant des bonnes œuvres, simplement en exerçant l'hospitalité, il est dit que quelquefois on peut loger qui? Des anges. Mais il est préférable qu'on ne sache pas leur nom. Voilà pourquoi je pense que cet épître est anonyme. Alors ma conclusion, j'attire votre attention sur ces besoins spéciaux de notre temps en rapport avec cet épître. Je résume tout ça. Elle décrit l'expérience de beaucoup de membres d'églises. Je ne donne pas des étiquettes, je ne dis pas quelles sont ces églises, mais de toutes nos églises, et je n'en exclus aucune, ou assemblée. Elle décrit cet épître, l'expérience de beaucoup de membres de nos églises, de nos assemblées, et elle leur apporte exactement ce qu'il leur faut. Qu'est-ce qui caractérise souvent les chrétiens de nos églises? C'est qu'ils ont cessé de progresser. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un moment donné, il y a un arrêt du progrès. Il y a eu un départ, certains, mais maintenant, voilà, on est essoufflé. Il y a un essoufflement. Arrêt du progrès. Et puis alors, on est satisfait de l'assurance de son salut. Mais on ne sait guère ce qu'est la communion personnelle avec le Seigneur. On a l'assurance de son salut. Mais une communion intime avec le Seigneur, savoir entendre sa voix, lui parler, le laisser nous parler dans ça, c'est quelque chose d'un peu étrange. Une communion personnelle et vivante avec le Seigneur. Ou la foi qui vit dans l'invisible, où l'on marche avec Dieu, où l'on voit déjà l'invisible, comme Moïse, il marchait en voyant celui qui était invisible. Puis voilà, c'est qu'après de vains efforts pour triompher du péché, on s'est découragé. C'est pas vrai? Est-ce que vous n'en rencontrez pas beaucoup de gens qui vous disent « Oh, mais moi, je suis découragé. J'ai essayé. » On a essayé de vaincre certaines de nos habitudes, certaines de nos tendances. On a même écrit des lettres et puis on a signé à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Et puis, ça n'a pas marché. Alors, on dit tout ça, c'est de la foutaise, on ne peut plus y croire. Eh bien, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé à triompher? Ne connaissant pas Christ comme notre force, et comme notre victoire, on s'est appuyé sur nos propres forces. Et tant qu'on s'appuie sur nos propres forces, tant qu'on croit qu'on peut par nous-mêmes arriver à quelque chose, c'est la faillite. Pierre en est un exemple. Quand même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et il a renié son maître. Alors ne recommençons pas. On s'est appuyé sur nos propres forces et on a fini par prendre part d'une vie misérable, de haut et de bas, puis on accepte la médiocrité. Puis on trouve que la médiocrité, ben, c'est ce qui est encore convenable. La médiocrité, a dit un auteur, c'est l'excellent pour les médiocres. Oui, mais est-ce que c'est ça, Jésus? Et l'incrédulité du jour, un docteur en géographie, c'est pas mon fils, hein. Mais à Nice me disait, il y a 2 mois ou 3 mois, j'étais là-bas, il me disait, vous savez Racine, hein, ce qui empêche tant de gens, des intellectuels, de croire, c'est la pauvreté du témoignage chrétien. C'est ça. Parce que le Christ, ils en veulent bien, mais ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas incarné dans ceux qui portent son nom. Et c'est ça. Vous pouvez faire toutes vos réunions d'évangélisation avec grand tapage. C'est pas ça qui sauvera les gens. Il y aura toujours une ou deux âmes parce que Dieu est miséricordieux. Mais ce qui pourrait impressionner le monde, c'est de voir des gens authentiques. Donc voilà, comme ce Chinois-là qui sort et qui dit « Ma lune de miel avec le Seigneur, je l'ai eu en prison. » Ça, c'est quelque chose. Ça bouleverse quelqu'un. Et alors, parce qu'on a accepté, n'est-ce pas, cette médiocrité, on garde alors des habitudes religieuses, on entend la forme de la piété, mais on ne vit plus dans le lieu très saint, on ne vit pas dans le lieu très saint. L'esprit du monde, sa littérature, les affaires, les plaisirs, tous unis pour nous amener à s'arranger de façon à combiner l'espérance, on croit encore l'espérance du retour du Christ, oui, on y croit, un avenir très confortable, on le veut cet avenir, hein, parce qu'on ne veut pas simplement aller dans la fosse, et puis on ne veut pas aller au purgatoire, on ne veut pas aller en enfer, alors on veut du ciel, oui, alors on veut un avenir glorieux, mais en même temps, une vie confortable où l'esprit de sacrifice et de renoncement n'a aucune place. Alors, il y a le doute qui s'installe en nous, parce qu'on a quand même encore une conscience, puis bien souvent, elle nous reproche et elle devient mauvaise. L'Épître aux Hébreux, alors, ne va pas seulement nous montrer notre misère, mais elle est un miroir qui va nous permettre de voir la gloire de Jésus, son trône céleste, et sa puissance capable de nous prendre en main pour nous rendre semblables à lui. Parce que le salut, c'est ça. C'est pas seulement un Jésus qui efface vos péchés, qui pardonne vos péchés et qui vous délivre de la crainte de la mort. C'est un Jésus qui vous possède dans la vie de tous les jours et qui va vous faire grandir en lui, faire de ces réalités invisibles les choses réelles. Oui, de ces choses célestes, des réalités quotidiennes. Vous commencerez à vivre dans le céleste, car je le dis, dans la dépendance du Saint-Esprit, ce n'est pas l'excellence de la saine doctrine de votre Église, ce n'est pas cela, ni les dogmes d'une Église qui peut donner la vie. Est-ce c'est vrai ou est-ce c'est faux? Est-ce que les dogmes auxquels les gens peuvent croire donnent la vie? Non. Ce n'est pas l'excellence même des meilleurs dogmes, des meilleures confessions de foi qui donnent la vie, c'est Jésus-Christ seul, le Christ vivant, le Christ puissant, le Christ vainqueur, le Christ qui revient, celui qu'on doit connaître comme sauveur, comme Seigneur et finalement comme notre bien-aimé. Et c'est cela que je demande à Dieu de nous révéler dans cette semaine. Amen.